Vous êtes sur RTL. RTL Soir.
Avec Stéphane Carpentier.
À 18h38 en ce lundi soir, c'est l'ancien commandant de la brigade des sapeurs de pompiers de Paris qui nous accompagne en direct. Bonsoir, mon général Jean-Claude Gallet.
Bonsoir.
Je peux dire ça, mon général Jean-Claude Gallet, tout va bien, ça.
Mon général.
Bienvenue à vous. Vous sortez Éloge du courage, donc vous signez avec Romain Guber aux éditions Grasset. On va y revenir en détail. On va feuilleter tranquillement tout ça. Ce livre, c'est un retour sur votre carrière de militaire, militaire de formation, et sur votre parcours de commandant des pompiers de Paris qui sont des militaires. Il faut le rappeler aux auditeurs. Hein. Vous nous racontez et puis vous mettez en avant des anonymes devenus des héros. L'idée d'abord d'écrire, de revenir sur votre parcours, ça vous est venu naturellement ou il a fallu insister ?
Non, il a fallu insister. Le livre, vous l'avez mentionné au début, c'est un livre à deux voix. Hein. C'est un livre avec Romain Guber, avec lequel existe une complicité très, très forte, et c'était durant le premier confinement. Il s'agissait pour nous de trouver des exemples de courage dans nos parcours respectifs, que ce soit de courage dans des situations extrêmes, mais aussi ce qui nous a marqué durant cette période de confinement, c'est de courage dans le quotidien. Mmh. Par exemple, les caissières, les éboueurs, les soignants, bien sûr. Toutes ces personnes-là qui étaient en première ligne et qui nous ont permis de vivre. Parce que derrière, il fallait... Le but de cet ouvrage, en fait, c'est repositionner l'homme au sein de son humanité. C'est ce qu'on a un peu perdu, et à partir de ces deux formes de courage. Donc c'est véritablement un livre écrit par deux complices, un livre à deux voix, à partir de deux parcours complètement différents, mais on les a tous rencontrés, ces personnes, dans notre quotidien, et bien sûr dans des situations extrêmes.
C'était agréable de se poser, de revenir dans le passé, justement, de prendre le temps de réfléchir à notre société, au comportement des hommes et des femmes.
C'est jamais très agréable de revenir dans le passé, de revivre bien sûr certains moments, certains choix, de revivre aussi la disparition de camarades, de frères d'armes. Mais je pense que c'était nécessaire d'une part pour métaboliser, hein, c'est ce que j'écris à un moment donné, c'est aussi le premier pas vers la résilience, mot qu'on cite parfois à tort à travers, surtout dans ces périodes difficiles, et puis de comprendre le mécanisme, de comprendre l'énergie qui a animé ces personnes du quotidien qui ont fait preuve de courage. Un militaire, un soldat, un sapeur-pompier, un personnel du corps soignant, et c'est sa mission d'accepter les risques, de prendre des risques. Mais comment monsieur, madame, tout le monde sont capables de se lever face à des situations de chaos, de prendre des décisions, de s'engager par eux-mêmes, de faire parfois don de leur vie pour les autres. C'était une part de mystère qu'on a cherché à lever là, tous les deux. Alors que ce soit encore une fois dans ces formes de courage extrême, mais aussi dans ce courage au quotidien de ceux qui nous ont permis de passer le premier confinement et qui vont continuer avec cette deuxième période.
Du coup, au-delà de tout ça et avec ce temps de réflexion, vous avez réussi à établir votre définition à vous du courage. Comment définir ça ?
C'est pas facile de définir le courage. Je crois que le courage, c'est d'abord une énergie. C'est un combat, parfois contre soi-même, hein, pour sortir de sa zone de confort. Mais il n'a de sens, ce courage, que s'il est porté par une finalité morale, c'est-à-dire une éthique. Parce que je pose à un moment donné je pose au courage mu par une pulsion mortifère, hein, c'est le courage des kamikazes, parce que leur finalité, celle de tuer des innocents, quelle que soit la cause, pour moi, ne relève pas d'une finalité morale. Alors oui, il y a peut-être dans leur code à eux une forme de bravoure, mais si la finalité morale n'est pas là, pour moi, le courage est dévoyé et il est extrêmement dangereux.
Et vous pensez que le courage, on l'avait perdu ces dernières décennies, et que là, il revient avec cette actualité-là, donc des attentats et aussi de ce virus qui est présent ?
Non, je pense qu'on ne l'a jamais perdu. Simplement, la succession des crises a été un accélérateur, un révélateur, que ce soit au moment des attentats de 2015 et de toutes les actions terroristes qu'il y a eu par la suite, ou accélérateur également avec le Covid. Je crois qu'il est au fond de chacun de nous. On avait peut-être oublié à un moment donné l'essentiel, on a peut-être oublié certains fondamentaux, et il ressort. Mais je reste un optimiste. Hein. Pour moi, le courage, qu'il soit individuel ou collectif, surtout dans ces périodes de troubles, pour moi, il est véritablement présent. Peut-être qu'on ne l'a pas assez verbalisé aussi.
Mais c'est pas un gros mot, en tout cas.
Comment ?
C'est pas un gros mot, en tout cas.
Non, pour moi, c'est pas du tout un gros mot. C'est une énergie positive.
Je voudrais qu'on s'arrête sur le cas des pompiers, parce que vous les aimez, ces pompiers, hein, ceux que vous avez côtoyés. Vous nous dites qu'ils sont d'abord pleins de pudeur, pleins de silence, qu'ils ne vont pas fanfaronner. Ils sont des acteurs plutôt que des commentateurs passifs. C'est ça, le pompier ?
C'est une très belle définition.
C'est vous qui l'avez écrite, hein.
Oui, mais vous la reprenez de manière remarquable. Oui, le pompier est avant tout un acteur de sa propre vie, parce qu'il fait un choix qui commence par son engagement. Il le poursuit, il exprime son engagement lors d'interventions, lors d'opérations difficiles. En fait, c'est ce qui lui permet d'affirmer sa responsabilité, mais aussi sa liberté. Face à soi-même, face aux autres et face au chaos.
Quel épisode vous reste particulièrement en mémoire sur ces pompiers, sur leurs actions ? C'est quoi ? C'est la rue de Trévise ? C'est Notre-Dame qui flambe ? C'est quoi ?
Moi, je retiendrai que les regards. Bien sûr, les regards sur le parvis de Notre-Dame. Quand le général Gontier, qui commande actuellement la brigade, donne les ordres pour partir à l'assaut de la tour nord. Le regard, lorsque l'explosion de gaz de la rue de Trévise, c'est deux immeubles qui menacent ruine. C'est deux sapeurs-pompiers de Paris mortellement blessés, deux autres victimes décédées, une vingtaine en urgence absolue, une fuite de gaz et un sapeur-pompier qui est porté disparu. Et il s'agit d'engager un détachement pour essayer de le localiser. Le temps est contre nous. Et il y a un risque important de surexplosion, il y a un risque d'effondrement d'immeuble. L'immeuble est ravagé par les flammes, et ils y vont. Et des épisodes comme ça, ces regards qui se croisent, de confiance dans le chef, d'acceptation consentie du risque, c'est peut-être aussi, si j'élargis la réflexion, ce contrat de confiance entre l'État et le citoyen. Mais comment on y arrive à cette adhésion active ? Ça ne se décrète pas. Ça se travaille au quotidien, dans le chef, dans ses relations avec ses hommes. Et ça s'exprime, vous savez, dans une crise, dans un incendie, dans une situation de guerre. En fait, vous êtes nus, hein. Donc, il n'y a pas de paraître, il n'y a pas de semblant. Et chacun le sent.
Alors, vous saluez aussi dans votre ouvrage les anonymes qui se surpassent, se dépassent en se précipitant pour sauver les autres. Vous citez beaucoup d'exemples, évidemment, connus dans votre parcours. Les attentats des années 90, les attentats parisiens de 2015. Des anonymes qui en sauvent d'autres, en fait. C'est ça l'illustration du courage.
Oui, c'est le don anonyme d'une personne qui n'est pas d'ailleurs spécialement formée à l'origine et qui prend qui accepte et qui prend ce risque. Il y a une très belle définition de cette acceptation du risque par une philosophe qui est morte d'ailleurs il y a 2 ans en essayant de sauver des enfants, là, je crois c'est en Aquitaine, c'est Anne Dufour-Mantel qui est décédée en 2017. Et qui avait, outre ses capacités à verbaliser cette prise de risque, d'ailleurs, elle a démontré par son action courageuse, c'est mettre en jeu son existence pour quelque chose qui nous dépasse. Alors ça peut se traduire de manière spectaculaire lors de l'incendie Notre-Dame, mais vous imaginez une situation de chaos lorsque se produit l'attaque du 13 novembre 2015 à Paris. Vous voyez tous ces anonymes qui tentent d'aider, malgré la peur des terroristes qui sont là, qui ne sont pas là, malgré l'horreur de la situation. C'est une première victoire contre la barbarie. Donc cette forme de courage-là, il faut la saluer, parce que c'est aussi ce qui participe de la résilience de notre nation.
Cette brigade des sapeurs-pompiers de Paris, vous l'avez quittée fin 2019. Vous aviez repris du service en début d'année 2020. Je voudrais qu'on s'arrête sur cette année qui est vraiment hors norme. Repris du service pour faire face au Covid. Vous étiez détaché auprès du ministère de la Santé pour optimiser les ressources de l'hôpital. Il fallait faire mieux, en fait, dans l'urgence, organiser le désordre. Est-ce que c'était vraiment le bazar, ce que vous avez constaté?
Je pense que c'est plus que le bazar, c'est une phase de sidération face à un virus qui s'abat, et parce que les lois de la pandémie sont des lois exponentielles, donc il y a des choix à faire pour préserver une capacité. Là, j'évoque des termes en termes technocratiques, hein, mais en fait, il y avait plusieurs enjeux. Il y avait des enjeux de bataille sanitaire qui étaient différents entre essayer de sauver les victimes du Covid, éviter de déprogrammer trop brutalement pour éviter qu'il y ait des décès collatéraux liés au Covid, et puis très rapidement un enjeu imbriqué en termes d'économie, en termes de lien social. C'est tous ces enjeux que nous retrouvons là. Lors de cette deuxième période de confinement. Alors le bazar, parce que j'ai comme l'habitude de répondre cash. Non, je pense que on a été surpris, mais c'est pas lié forcément au ministère de la Santé en lui-même. Je crois qu'on s'est laissé endormir dans des normes, dans une interface de technostructure sur quel que soit le sujet. Et quand il y a un événement atypique et hors norme qui nous échappe un peu, ça peut passer par une phase de procrastination et ensuite de sidération et par la suite de choix douloureux à faire.
On va rester sur ces mots, il faut vous lire absolument, ça s'appelle Éloge du courage, c'est aux éditions Grasset. Merci Jean-Claude Gallet de nous avoir accompagnés en ce lundi soir, merci à vous.
Merci beaucoup.
Dans un instant, c'est la culture de l'actu avec Julia Molcou, à tout de suite.
RTL Soir.